Bonsoir, c'est Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Voilà, sommaire de cette émission, eh bien nous allons vous parler, pas d'intervenants cette fois-ci, et nous allons donc vous parler des romans qu'on a envie de partager avec vous tout simplement. Et pour commencer, je vais vous parler d'un roman de Alicia Jiménez Bartlett, qui est sorti fin 2015. Ce roman s'appelle « Personne ne veut savoir ». C'est un roman qui, comme tous les romans d'Alicia Jiménez Bartlett, est d'abord sorti chez Rivage Thriller. Ça faisait un moment qu'on attendait la suite des enquêtes de Petra Delicato. Petra Delicato, c'est l'inspectrice barcelonaise, et il y a son adjoint Firmin Gartson. Et donc, avant de vous parler de ce roman, j'ai eu un petit peu envie de vous parler de ces deux personnages, qui sont quand même des personnages hauts en couleur. Donc, Petra Delicato, j'imagine que maintenant, elle a une cinquantaine d'années. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jacques, mais ça doit être à peu près ça.
On va dire ça, ouais.
Elle ne doit pas être loin de 50 ans. Divorcée.
Une belle cinquantaine.
Voilà, divorcée deux fois. Trois d'ailleurs, on ne sait plus. C'est, comment dire, une tempêteuse, une râleuse, une chieuse. Elle défend sa liberté à tout prix, se moque ouvertement de l'amour, des enfants, enfin des enfants des autres, parce qu'elle, elle n'en a jamais voulu. En gros, elle se veut libre, sans entrave. Elle aime son métier de flic, car elle peut jurer comme bon lui semble.
Elle était avocate avant.
Elle était avocate, oui, et donc là, le langage est plus châtié, on va dire. Et c'est une personne qui, on va dire, peut commencer sa journée en sirotant un petit whisky à 10h du matin dans son bar favori. Alors là, la prononciation, je suis désolée pour les hispanophiles, la Rara del Oro, la jarre d'or, oui, voilà.
J'essaierai même pas de le faire.
Voilà, elle est aussi, et ça c'est sa première des qualités, et c'est ce qui rend ses romans d'ailleurs aussi pimpants et enlevés, elle est capable d'une autodérision totalement décapante, mais aussi d'une lucidité, bien évidemment vis-à-vis d'elle-même, mais aussi d'autrui, qui l'aide d'ailleurs beaucoup dans son travail. Elle réussit aussi, c'est très visible dans ce roman-ci en particulier, de malmener aussi bien ses proches que les témoins, que les gens avec qui il travaille. D'un côté, elle les malmène, et puis d'un autre côté, elle leur montre une empathie, elle leur montre une complicité, qui fait d'elle un personnage donc des plus sympathiques. Autre personnage, son collègue Firmin Gartson. D'ailleurs, je crois que lui, il a encore plus évolué qu'elle depuis le premier roman. Il était, on doit dire, un peu étriqué, vieux garçon introverti. Il se laissait rabrouer par sa patronne, donc Petra Delicato. Il est maintenant marié, et je ne sais pas si ceci explique cela, mais il rivalise d'humour acerbe et d'ironie avec son inspectrice chef. Il est, lui, toujours un petit peu décalé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il sait très bien remettre sa supérieure dans le cadre quand elle dérive un peu trop. Alors j'ai vérifié, on les a découverts il y a déjà 16 ans, puisque le premier roman, Rite de mort, date de 2000, tout au moins sa traduction. Et depuis, on les a suivis dans leurs enquêtes et leurs joutes verbales tout le long de 10 romans. Précisons, c'est important que les premiers étaient traduits par Marianne Millon, et depuis Un bateau plein de riz, le cinquième, je crois, c'est Olivier Hamilton et Johanna Danzenberg. C'est pas un nom très espagnol, mais la traduction est très, très réussie. Et donc, c'est eux maintenant qui traduisent excellemment la verve de ces deux trublions de la police barcelonaise. Mais passons donc à ce dernier opus, donc, qui s'appelle Personne ne veut savoir. Et je commencerai par vous lire les dernières lignes de ce roman. Auditeur fidèle, ne t'inquiète pas, cela ne dévoile aucun des secrets de l'intrigue. Cela donne juste une idée de l'esprit doux-amer, ironique et désabusé qui va habiter l'esprit de nos personnages tout au long de ce roman. Donc, je cite. C'était toujours pareil. J'avais la conviction que l'amour des autres reposait sur le fait qu'il n'y ait pas une distance trop grande entre ce qu'on attend de vous et ce qu'on fait réellement. Je trinquais avec mon collègue à la santé des femmes de caractère, aux hommes honnêtes, aux animaux en liberté, aux enfants heureux, et à toutes les utopies qui, seulement de temps en temps et à intervalles réguliers, deviennent réalité. Voilà, c'est la fin du roman, vous voyez, il n'y a aucune allusion à l'intrigue.
Il n'y a pas de spoiler.
Voilà, donc ces deux inspecteurs, une fois n'est pas coutume, vont être chargés dans ce roman d'un cold case, en bon français, une affaire classée, un homme assez âgé, qui a été assassiné, voilà, 5 ans, alors qu'il était en galant de compagnie. En gros, pour être plus cru, avec une pute bas de gamme. Traînant un peu les pieds, les deux inspecteurs reprennent, épluchent les dossiers, retrouvent d'ailleurs la prostituée, qui, quelques jours plus tard, se fait assassiner, donc juste après. Petra et Firmin commencent une très très longue investigation et ils ne sont pas au bout de leur peine. Ils feront des allers-retours avec Rome, ils devront collaborer ils devront collaborer avec leurs collègues italiens pour remonter une piste mafieuse, ça c'est un peu nouveau, qui ne saura malgré tout pas être la clé du meurtre d'ailleurs. Et il faudra toute la ténacité, et en fait plus que ténacité, on va dire plutôt l'entêtement de l'inspecteur Delicado, pour comprendre, d'ailleurs à l'aide du très dévoué Firmin Garson, les raisons de l'assassinat, des secrets que, le titre l'indique, personne ne veut savoir. Entre-temps, on aura de magnifiques prises de bec de Petra, en gros avec tout le monde. Son collègue italien, Abate, un flic pourtant solide, compétent et pour tout dire très séduisant. Son supérieur, le juge, les suspects et bien entendu Marcos, son mari, qui a bien du mal à comprendre les difficultés du métier de ce que l'on ne peut pas vraiment appeler sa chair et tendre. Entre-temps aussi, on aura des réunions de famille improbables où Petra Delicato joue son rôle de belle-mère, comme elle peut. Entre-temps toujours, lors de son voyage en Italie, on aura les bizarreries de Firmin, on va dire subjuguée, envoûtée par Rome, ses envolées lyriques, ses photographies en tenue de gladiateur, ses réparties improbables, et surtout l'amitié, l'affection indéfectible qui le lie à sa supérieure hiérarchique. En fait, bien plus que cela, bien plus qu'une supérieure hiérarchique. Ce roman, en gros, est une tranche de vie, des tranches de plusieurs vies. Certes romanesque, mais où chaque lecteur retrouvera à un moment ou à un autre ses propres doutes, ses interrogations, ses failles, mais aussi ses émotions. Bref, un bon roman. Voilà, Jacques, on va peut-être écouter un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. Alors, comme il va être pas mal question de pêche dans le roman dont je vais parler après, j'ai choisi, assez finement, n'est-ce pas, un album de Fish. Fish, c'est l'ex-chanteur de Marillion. Et c'est un album qui s'appelle Gone Fishing, donc Je suis à la pêche. Et en fait, ça pourrait presque, ce Gone Fishing, être un carton, vous savez, comme il y a dans les films muets, le carton de début ou le carton de fin. Et il y a même plusieurs fois au milieu, parce que souvent, ils vont à la pêche. Donc, le titre de cette chanson qu'on va écouter s'appelle Feast of Consequences, avec mon super bel accent anglais. Mais le titre aussi est pas mal par rapport à ce qui va se passer dans le roman.
Faces, throw your letters in an open fire. I couldn't say that I still despise you, but I'm finding hard to not to. After all it was sitting on, it's time this thing was over. Didn't want you to change your mind. I don't honestly think so. Up like a lovesick puppet, you were dancing over a burning flame. You kept pulling the strings, the few strands left remaining. You just wouldn't let me go. You're running out of time, running out of words, running out of consequences. Where are you then? Just what we did now, will we have changed our mind? There was something so deeply flawed. In the beginning we tried to deny it, just like a crack in a china doll, a masquerade in silence. Where we tried to recognize just who exactly we're trying to hide. The rosy play we didn't leave behind. The act was all before us. Run out of space, run out of time, run out of words to say. To a feast of consequences.
Alors tu nous as un petit peu appâté avec le titre de ce morceau, mais tu nous en as pas donné la traduction.
Feast of Consequences, ben je te laisse traduire, toi, les conséquences de ce qui va se passer ou de ce qui s'est passé plutôt.
Tout a des conséquences.
Exact, tout a des conséquences, exactement. Donc on peut pas dire que l'auteur, Ned Crabb, dont je vais vous parler ce soir, soit prolifique. Son premier roman, La bouffée chouette à Fatshakula, date en VO de 78 et en français de 80. Il est devenu culte, on y reviendra peut-être. Le suivant, qui est l'objet de mon propos ce soir, a été publié en 2014 aux États-Unis et début janvier en français. 35 ans, donc, même un peu plus, après le premier. Donc, on peut dire qu'il prend son temps pour écrire.
Ah, peut-être qu'il va trop à la pêche. Hein.
Peut-être.
Ned Crabb, d'ailleurs, vu son nom.
Exactement. Ce roman s'appelle donc, ce que j'ai toujours pas dit, Meurtre à Willow Pond. Il est publié chez Gallmeister, dans la collection Noir, et il est traduit par Laurent Burry. Alors, meurtre, je précise, est au pluriel. Donc le lecteur avisé sait dès le titre que le premier meurtre sera suivi au moins d'un autre. Alors c'est un roman qui s'apparente, au moins au début, à un classique façon Agatha Christie. Un groupe de personnes réunies dans un lieu clos ou presque. Ici c'est un lodge, une superbe résidence de pêche de luxe, sur les bords d'un très beau lac du Maine, dans l'est des États-Unis. Donc. Et quasiment tous, toutes les personnes qui sont réunies, enfin, sauf peut-être certains des clients, ont une bonne raison d'espérer ou de vouloir la mort de la patronne, Miss Iphigène Seldon, une vieille dame de 77 ans, encore très en forme, sexuellement active, ainsi que l'a décrit l'auteur, mais aussi un chef d'entreprise dictatorial, on la surnomme le Duce, ce qui est quand même pas particulièrement sympathique.
Ce qui veut dire que les Américains connaissent bien l'Europe malgré tout.
Exactement, enfin au moins l'auteur. En dehors de quelques clients, je le disais donc, la patriarche a réuni, je ne sais pas si on peut dire la patriarche, mais on va le dire quand même, la patriarche oui. A réuni toute la famille.
Comme c'est un roman autour de la page, ça peut se faire voilà. La patriarche. Oui.
C'est vrai, oui. Bon, donc cette Iphigénie a réuni toute sa famille, tous ses héritiers, donc en fait, pour annoncer une modification de son testament. Et là, tout est posé. Qui va mourir? Qui va tuer? Et surtout, la pêche sera-t-elle bonne? C'est à peu près les trois questions du roman. Les trois principales, il y en a plein d'autres après.
Alors, qui va mourir? On s'en doute bien quand même. Ben,
oui, oui, mais enfin bon, comme il y en a plusieurs, oui, on se doute bien que la petite vieille, enfin, elle n'est pas si petite, mais bon, voilà, bon, on va en dire plus. Donc j'évoquais Agatha Christie. C'est vrai que la majorité des protagonistes, pourtant, ne semblent penser qu'au sexe, à l'alcool et à la pêche. Alors, la pêche à la mouche, en eau douce. Il faut reconnaître que ces trois pensées, enfin ces trois, sont assez rares dans les enquêtes de Poirot ou de Miss Marple. Mais ils s'intéressent aussi tous au fric, celui d'Iphigène. Et là, c'est beaucoup plus dans la norme des polars Agatha Christie.
Et puis le fait qu'ils peuvent être tous suspects.
Ils peuvent être tous suspects parce qu'ils ont tous besoin, et ils ont tous une bonne raison, enfin une bonne, pour eux en tous les cas, raison de tuer la mamie. Qui n'est pas mamie puisqu'elle n'a pas d'enfant. Puisque meurtre, il va y avoir enquête. Menée par le shérif de la ville. Un shérif, super personnage, shérif typique des petites villes des États-Unis. Et ce flic va être assisté, outre de ses adjoints, de Alicia et Six Goldwyn. C'est un couple de profs à la retraite qui ne vivent que pour les vieux livres qu'ils collectionnent et revendent et pour la pêche. Alors ils sont tous les deux cousins éloignés de la Miss Seldon, Iphigène, et ils sont là parce qu'elle leur a demandé de venir. Et ils sont surtout les seuls à ne pas avoir besoin d'argent puisqu'ils en ont assez pour satisfaire leurs deux passions, la pêche et les vieux livres. On pourrait aussi évoquer chacun des membres de la famille tant ils sont tous à divers degrés dire croquignolé. Mais cela gâcherait sûrement le plaisir de lecture et de la découverte, donc je n'en parle point. Et Ned Crabb nous concocte, à partir de ce moment-là, un roman puissamment addictif. Au début, il prend pourtant son temps pour installer l'histoire en décrivant avec minutie les lieux, les personnages, les méthodes de pêche. Et pourtant, on a les méthodes de pêche, nous, a priori, voilà. Mais ça reste intéressant, passionnant. Et les promenades sur le lac, il raconte, on a vraiment envie d'aller faire un petit tour là-bas. On a même droit à une évocation poétique et dégustatrice, si je puis dire. Si je puis dire, d'un bourbon Tennessee whisky qui ravira les amateurs, mais qu'il faut boire avec modération. Même si ce n'est absolument pas le cas de certains personnages du roman. Et je ne vous dirai pas le nom, puisqu'on ne fait pas de pub sur Agora. Puis, avant le premier meurtre, quand le calme proverbial de ce lac fait place à une tempête, avec orage, éclairs, vent, le rythme s'accélère soudain, presque au rythme des bourrasques. Et l'auteur enserre complètement le lecteur dans ses pinces, oui, Ned Crabb, pour ne le lâcher qu'à la dernière ligne de l'épilogue, où l'apaisement revient, comme dans la météo, aussi, enfin autant dans la météo que dans la vie des protagonistes, du moins. La vie des protagonistes, pour ceux qui l'ont encore, la vie, évidemment. Car, en fait, il ne faut pas croire que dans ce roman, on ne parle que de la nature, que seule la beauté des lieux va imprégner le roman. Non, les humains ont leur place, et ces humains sont très doués pour gâcher tous ces beaux moments et cette belle nature. En fait, ce roman, c'est un peu de l'Agatha Christie, avec le côté vénéneux de Patricia Highsmith, et ce côté nature writing qu'on trouvait dans les romans de William G. Tapley, dont on vous a parlé assez souvent sur cette antenne, ce pêcheur, ça se passait aussi dans le Maine, pratiquement dans les mêmes, au bord des mêmes lacs. Donc je trouve que Agatha Christie, Patricia Highsmith et William G. Tapley, pour un second roman, c'est plutôt pas mal comme référence.
Même 35 ans après.
Même 35 ans après. J'espère qu'il n'attendra pas autant.
Au risque de moins apprécier.
Parce que les Alicia et Six Goldwyn pourraient bien faire des personnages récurrents fort sympathiques. Mais bon, ça, c'est juste une opinion personnelle.
Bon, on verra.
On vous laisse avec les informations.